Étudier avec moi dans Ésaïe au chapitre 2, deuxième chapitre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 2. Il y a là une prophétie qui est donnée pour le peuple d'Israël. Et il est étonnant, et vous allez voir combien on peut être étonné en regardant un petit peu de plus près ce que ces versets sont en train de nous dire aujourd'hui. À partir du verset 3, « Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. » Et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel, pardon, je me suis trompé, je suis en train de lire là où il ne faut pas. Excusez-moi. Je suis en train de me dire, mais ces versets ne sont pas les plus familiers aujourd'hui.
C'est pas là-dessus que je vais prêcher.
Donc on reprend à partir du verset 3. Du chapitre 2, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin que nous enseignions ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Elle sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Verset 5. « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Et c'est ce verset-là que j'aimerais que vous regardiez avec moi et remarquiez ce que le Seigneur est en train de dire ici à la maison de Jacob. « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons aujourd'hui et nous te louons. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et Seigneur Jésus, nous te prions que tu nous gardes dans la lumière. Et Seigneur, si ton esprit, Seigneur, qui nous éclaire par ta parole, devait découvrir quelque chose dans notre cœur qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, sauve-nous de cela. Seigneur Jésus, si nous nous sommes éloignés un petit peu et que notre chemin est ténébreux, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, vers la lumière. Seigneur Jésus, si nous sommes en train de nous égarer, Seigneur, Seigneur, toi seul, saisis-toi de notre main craintive et conduis-nous. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu sais que nous vivons dans un monde qui ne peut prédire ce qui va se passer demain. Mais Seigneur, toutes choses sont entre tes mains. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi pour ne pas craindre, pour ne pas douter, pour ne pas avoir peur, car tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit donc ton nom, Seigneur, ton nom merveilleux, et que ta parole, Seigneur, soit pour nous une lumière sur notre sentier. Nous te demandons cela dans le beau et précieux nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse alors que vous vous asseyez. Alors que nous étions en train d'évangéliser notre voisinage, Sœur Novaki et moi, maintes et maintes fois, un de nos voisins, qui était juif, très aisé, aujourd'hui deux de ses enfants sont médecins ici en ville, quand je lui ai parlé de Jésus, est rentré dans une grande colère. Pas sur moi, mais sur ce sujet. Il m'a fait savoir en deux ou trois mots qu'il était un athée, qu'il ne croyait en rien et qu'il ne voulait pas parler de Dieu. C'était la dernière chose qu'il avait sur sa pensée. Sa violence nous a choqués. Nous pensions, étant donné que c'était un juif, qu'il aurait une certaine inclinaison vers les choses qui ont affaire à Dieu. Mais son refus était choquant. Et vous savez, frères et sœurs, que hormis quelques juifs aujourd'hui dans le monde, mais l'attitude du plus grand nombre est certainement aujourd'hui encore la même. Si vous allez voir les juifs orthodoxes, ils sont si violents dans leur façon de faire les choses qu'ils sont vraiment prêts à en découdre avec vous, même s'il le fallait physiquement. Et la plupart des autres juifs qui ne sont pas pratiquants, simplement sont plus ou moins athées. Parmi eux, il y a d'autres gens qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est encore un peu minime. À la raison que je vous trace un petit peu cette image, c'est que pour vous réalisiez l'impact de ce verset, la raison de ce verset ici, dans Ésaïe au chapitre 2, verset 5, « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Oh que la maison de Jacob, aujourd'hui, littéralement parlant, Israël marche dans la lumière de Yahvé. Qu'elle puisse découvrir qui est celui qui l'a aimée et qui a pris soin d'elle jusqu'à aujourd'hui. Quoique peut-être ce pays se trouve dans sa majorité, il y a une minorité de gens qui craignent Dieu là-bas, il y a une minorité de gens qui aiment le Seigneur, mais dans sa majorité, c'est comme chez nous en France. Il y a une minorité de gens qui servent le Seigneur. La plupart des églises évangéliques sont remplies ici dans la région parisienne. Il y a des gens qui vont à l'église, qui prient, qui chantent. Il faut savoir qu'il y a. Mais la majorité de notre pays ne va pas à l'église. La majorité du pays n'a rien à faire avec Dieu. Et vous savez ce qui se passe, c'est que ces gens, peu importe qui ils sont, grands, petits, riches, pauvres, instruits ou non instruits, ce sont des gens qui sont dans d'épaisses ténèbres. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis et que ce soit en Israël. Et nous avons besoin de recevoir la lumière plus que jamais. Ainsi, nous devons prier, Seigneur, ramène la lumière dans ce peuple. Amen. Quand vous regardez sur Israël, priez toujours pour Israël. Priez pour la paix de Jérusalem. Il y a bénédiction pour nous à prier pour ce pays. Parce que c'est toujours le peuple que Dieu a choisi. Et ça, c'est que le salut nous est venu de chez eux. Si nous sommes dans la maison de Dieu, c'est que quelque part, un jour, en Israël, Jésus-Christ a marché. Et c'est là qu'il a donné sa vie. C'est là qu'il est né. C'est là qu'il est ressuscité. C'est là que toutes ces choses se sont faites. Donc il nous est nécessaire à nous aujourd'hui de nous approcher du Seigneur et réaliser que si nous avons la lumière, nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour garder la lumière et rester dans la lumière et vivre dans la lumière. Oh, que la maison de Jacob puisse se tourner vers l'Éternel, reconnaissant que le Seigneur Jésus est lui, cette aurore qui brille et qui annonce le lever du soleil. Il est étonnant de savoir que vous avez remarqué si vous avez des plantes à la maison et que vous les mettez dans une pièce, toutes les feuilles de la plante vont se tourner vers la fenêtre. Maintenant, c'est étonnant que ces feuilles vont se tourner elles-mêmes vers... Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui a à faire à la lumière. La vie est dans la lumière. C'est quelque chose de beau à voir. Les arbres ne fonctionnent pas si vous les mettez à l'intérieur. Ça ne marche pas, vous savez. Ils ont besoin de la lumière. Donc, dès qu'on met des arbres à l'intérieur, on est obligé de mettre des lampes spéciales, artificielles, qui leur font un rayonnement artificiel pour qu'ils puissent survivre. Autrement, l'arbre va se dessécher et mourir. Il est aussi étonnant de savoir que des personnes qui sont gravement malades ont besoin d'avoir une exposition au soleil pour pouvoir guérir. Le soleil guérit. Maintenant, trop de soleil est très dangereux. Il y a des dizaines de gens qui ne réalisent pas le danger du soleil. Autant qu'il guérit, autant qu'il peut tuer aujourd'hui. Donc, il y a un équilibre à avoir, mais sachons une chose, c'est que on a besoin du soleil pour vivre. Notre corps a besoin de certaines vitamines qui nous viennent par le soleil, notamment la vitamine D qui nous est donnée par le soleil à certains moments de la journée seulement, où est-ce que nous pouvons nous exposer pour quelques minutes seulement et pour pouvoir en profiter pleinement, il faudrait qu'une grande partie de notre corps soit exposée pour pouvoir bénéficier de ces vitamines. Mais il y a la vie dans la lumière, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et pas n'importe quelle lumière, la lumière du soleil. Jadis, quand la médecine était un petit peu moins développée qu'aujourd'hui, les gens qui avaient la tuberculose, on les emmenait dans des endroits où est-ce que l'air était très facile à respirer, et on appelait ça des sanatoriums, on emmenait ces gens-là, et une certaine partie de la journée, on les mettait dehors, au soleil, pour que le soleil puisse faire son action guérissante sur eux, et l'air aussi puisse les guérir. La lumière est vitale pour nous, on ne peut pas vivre dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est nécessaire que dans notre tête, nous entretenions toujours le soleil de notre vie qui s'appelle Jésus-Christ. Il est celui qui éclaire notre âme. Il est celui qui nous bénit. Mais hélas, aujourd'hui, quand on pense à Israël, une grande partie de ce peuple qui a refusé la lumière est voilée. Son cœur est voilé. Alors, je ne pointe pas un doigt accusateur sur eux en particulier. Tous ceux qui refusent la lumière de Christ ont le cœur et les yeux voilés. C'est aussi simple que ça. Mais eux en particulier, parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient de chez eux. Et à cause de leur incrédulité, à cause de leur refus d'accepter Christ, un voile s'est appesanti sur leur cœur. Prions plus que jamais, alors que nous sommes arrivés à la fin des temps, qu'il y ait un rassemblement parmi toutes les tribus d'Israël et que le Seigneur révèle son nom. La Bible nous dit qu'ils invoqueront le Seigneur un jour quand ils seront dans cette dernière bataille, où est-ce qu'ils invoqueront le nom du Seigneur et ils diront « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Amen. Ce jour arrive bientôt. Mais entre deux, prions que le Seigneur fasse son œuvre, non seulement chez eux, mais au milieu de notre peuple, où est-ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet autre Israël que vous et moi sommes. Nous sommes l'Israël de Dieu aujourd'hui. Il a son peuple physique, dans un endroit très géographiquement qui est physique, mais il a un autre peuple qui est son Israël dans le monde entier, qui est fait de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tous les hommes, et nous en avons un petit peu ici un échantillon au milieu de nous. On est un petit peu partout ici. Amen. On est de différentes nations, mais Dieu nous a réunis ici parce qu'un jour, il a fait briller sa lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Donc ce matin, voici une invitation à chacune et à chacun d'entre vous. Venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Dans le contexte de la parole de Dieu que nous venons de lire, il est très remarquable de remarquer que ces gens, en parlant du peuple d'Israël, qui connaissaient Yahvé mieux que n'importe qui, étant donné qu'il s'était manifesté à eux d'une manière extraordinaire en les faisant sortir du pays d'Égypte, devraient avoir besoin d'une telle visitation. Il est étonnant que le Seigneur est obligé de leur rappeler de venir pour marcher dans la lumière. C'est un appel que Dieu offre à son peuple, mais c'est un appel que Dieu offre à chacune et chacun d'entre nous. Il nous rappelle que nous sommes invités à marcher dans la lumière, car il semble naturel que pour ceux qui ont vécu avec lui, comme eux l'ont fait, continueraient de vivre avec lui, de vivre par lui et de le vivre en lui. Ce serait quelque chose qui est automatique. Quand quelqu'un vous fait du bien, vous voulez rester avec cette personne. Quand quelqu'un prend soin de vous, vous voulez rester avec cette personne. Quand quelqu'un vous bénit, vous voulez rester là. Mais non, il est triste de lire les derniers chapitres, soit du Deutéronome ou de Josué, où est-ce que le peuple doit être mis en garde des bénédictions du Seigneur, mais si vous ne servez pas l'Éternel, ça et ça et ça et ça et ça, et encore tout ça viendra sur vous, s'abattra sur vous. Vous retournerez à nouveau dans l'esclavage. Vous serez à nouveau détruits, éparpillés dans le monde entier. C'est étonnant que le Seigneur ait été obligé de leur dire cela après avoir fait tout ce qu'il a fait pour eux. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est ingrate. L'homme, peu importe qui il est, juif ou non juif, il est fait de la même chose. Il est certainement rempli d'ingratitude. Il n'a pas de reconnaissance. On est reconnaissant pour un certain temps, puis après on n'en a pas. Et qu'est-ce qui fait cette non-reconnaissance ? C'est que quelque part, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de compter ses bienfaits. Le cantique nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Vous savez quoi? On doit faire ça avec les choses du Seigneur, mais on doit faire ça avec les choses de la vie. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Regarde sur le salut qu'il t'a donné. Regarde les dates dans ta vie où est-ce que tu as été baptisé, rempli du Saint-Esprit après t'être repenti. Regarde les jours où Dieu t'a guéri. Toutes ces choses doivent être constamment devant nous. Mais il doit y avoir aussi les choses matérielles de la vie où est-ce que Dieu prend soin de nous. Il est un père pour nous. Il nous garde, il nous aide. Souvent, je pense à Sœur Novaki et moi, quand on s'est mariés tous les deux, on ne gagnait pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on gagne plus maintenant. Mais on ne gagnait pas beaucoup. Mais l'une des choses qui était dans notre vie, c'est qu'on s'est franchement jamais soucié. Je pense qu'on était totalement naïfs, elle et moi, ou alors totalement confiants. Mais la confiance et la foi, ça fait preuve aux yeux des autres d'une certaine naïveté. On avait confiance en Dieu. On n'avait rien, on était contents. C'est étonnant de rien avoir et être content quand même. On n'a rien, on est content. Parce qu'on sait que la semaine prochaine, il y aura une autre paye qui va arriver, puis on va y arriver. Il y avait tout ce qu'il fallait à la maison, on avait chaud, on avait à manger, on avait un bébé, on était content. On était content, c'est tout, c'était content. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de monnaie, à ce moment-là, on n'avait pas de d'économie, on n'avait rien. Mais on était content. Maintenant, quand je pense à ça maintenant, avec ce que je dis, mais c'est étonnant ce que le Seigneur a fait. Et je suis content de savoir que je suis passé par là. Je dis merci Seigneur, parce qu'on a fait pas mal d'expériences qui aujourd'hui montrent que Dieu est fidèle. Quand on marche avec lui, il prend soin de vous. Amen. Nous, on pense que Dieu est bon parce qu'on a un livret A qui est saturé. On dit, oh, le Seigneur est bon. Vous savez quoi? Dieu est bon sans livret A. Amen. Vous n'avez pas besoin d'avoir un livret A pour savoir que Dieu est bon, hein? Amen. Quelquefois, on se soucie, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Quand vous dites, est-ce que je vais y arriver? Vous êtes en train de regarder Dieu dans les yeux et dire, est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que tu vas me conduire? Est-ce que tu vas prendre soin de moi? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Combien de temps est-ce que vous passez à regarder votre compte en banque? Il y a des gens qui regardent sur leur compte en banque tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent. Sachez une chose, c'est que moi, je ne mettrai rien dedans. Donc si vous attendez à ce que moi je veux mettre quelque chose dedans, il n'y en aura pas, je ne peux pas en mettre dedans. J'ai du mal à mettre dans le mien. Il y a des gens qui regardent leur compte tous les jours. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Ah, ça diminue. Ah, ça monte. Ah. Vous savez quoi? Ça ne va pas, ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit regarder sur le compte du Seigneur. C'est lui qui pourvoit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il était là bien avant la BNP, la Société Générale, vous savez. Il était bien avant la Caisse d'Épargne, il était là bien avant. Nous devons apprendre à compter sur lui. Et donc je bénis le Seigneur pour ces moments où est-ce que on n'avait rien et le Seigneur a pris soin de nous. Et il prend soin de nous encore. Et il prendra soin. Vous savez ce que j'ai appris ça? J'ai appris ça chez mon père. Mon père avait cette attitude-là. Mon père avait l'attitude où est-ce que Dieu prendra soin. On n'avait rien, mais il me disait toujours, t'inquiète pas, ça ira. Il prendra soin. À chaque jour suffit sa peine, il prendra soin. Et je suis étonné de voir que mon père a travaillé très dur, il a travaillé à une quarantaine d'années au fond des mines. Mon père était mineur. Vous savez, il n'a pas vu beaucoup le soleil. Les Polonais qui travaillaient dans la mine, ils étaient bien blancs. Caché d'aspirine, blanc. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas le soleil. Ils n'avaient même pas le temps de rougir un petit peu. Ils n'avaient même pas le temps de prendre du thym. Quand je ne parle pas du thym T-H-Y-N, hein, je parle du thym. Hein. 40 ans, il a travaillé à mine. Il a travaillé 20 ans à la surface. Il a travaillé presque toute sa vie. Mais toute sa vie, il a toujours dit « Dieu prendra soin ». Dieu prendra soin. Et c'est quelque chose qu'il a inculqué dans ma sœur et moi. Dieu prendra soin. Tu te souviens, Annick? Il a toujours dit ça, papa. Amen. Moi, je veux vous dire à vous, Église, Dieu prendra soin. Amen. Mais nous devons garder nos yeux fixés sur lui. Si nous gardons nos yeux fixés sur les comptes, il est possible que l'on soit déçu un jour. Je vois qu'il y a une effervescence parmi tous les organismes bancaires. Demande aux gens que si vous investissez une certaine somme entre maintenant et le mois d'avril, vous aurez 4,25% d'intérêt. Moi, ce que je suis en train de me poser la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après le mois d'avril, une fois que vous aurez tout mis là-dedans? Est-ce que tout ça va s'écrouler, qu'il n'aura aucune valeur? Est-ce qu'on aura une brouette d'euros pour aller acheter une baguette? Qui sait ce qui va se passer dans le monde? Et vous savez quoi? C'est là qu'on risquerait d'être très déçu parce qu'on aura regardé vers une lumière qui n'est pas la lumière du Seigneur. On doit regarder vers le Seigneur. Nos yeux doivent être regardant vers lui. Il nous invite aujourd'hui à marcher avec lui. Le peuple d'Israël avait oublié qu'ils avaient une exclusivité sur leur vie. Dieu était leur Dieu. Il était leur Dieu exclusivement leur. Il n'était pas un Dieu des autres. C'était leur Dieu et exclusivement leur Dieu. Ils ne partageaient rien avec les autres. Il était leur Dieu. Mais parce qu'ils l'ont refusé, maintenant il s'est tourné vers tout le monde. Maintenant il s'est tourné vers vous et vers moi. Nous qui ne sommes pas des Juifs, enfin je ne sais pas, peut-être que vous l'êtes, mais moi je ne pense pas, je devrais un petit regarder mes racines, mais je ne pense pas. Donc théoriquement on n'est pas, ok? Théoriquement on ne l'est pas. Et il est devenu aussi notre Dieu. Il s'est révélé à nous et il est exclusivement notre Seigneur. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Et il nous traite exactement avec les mêmes bénédictions qu'il a promises à son peuple exclusif. Nous pouvons proclamer les mêmes bénédictions. Nous pouvons lui demander les mêmes soins. Pourquoi ? Parce qu'il nous invite à marcher avec lui dans sa lumière. C'est une invitation extraordinaire qui nous vient de la part du Seigneur. Mais l'invitation qu'il est en train de faire, c'est qu'elle vient de la part toujours de cette maison de Jacob qui a oublié le Seigneur. Et le Seigneur vient et la réinvite et dit « Viens, maison de Jacob, et viens et marche dans la lumière. » Il y a d'espoir pour Israël. Israël écoutera un jour et entendra. Ce peuple entendra tout entier qu'il faut marcher dans la lumière de Yahvé Sauveur. Le problème, c'est qu'ils ont un problème, c'est que Jésus-Christ a été manifesté en chair. Pour eux, c'est un petit peu un problème, ça. Je me demande qu'est-ce qu'ils font pour lire Ésaïe 53. Je me demande qu'est-ce qu'ils font quand ils lisent le chapitre 2 d'Ésaïe. Je me demande qu'est-ce qu'ils font quand ils lisent Michée. Je me demande comment est-ce qu'ils peuvent interpréter. Mais vous savez quoi, quand il y a un voile sur les yeux, c'est comme quand vous parlez à quelqu'un dans la rue qui est d'une autre dénomination, vous leur parlez du baptême au nom du Seigneur Jésus, ils disent « Oh non, non, moi je ne le vois pas comme ça. Moi je ne vois pas ça. » Donc quand le voile est là, le voile est là. Merci Seigneur pour la révélation. La révélation, c'est quand le voile est levé. Amen. C'est quand on commence à voir. Quand on voit quoi? La lumière. On voit la lumière en Jésus-Christ. Quelle est cette lumière à laquelle Dieu nous invite? Il nous invite à regarder sur cette lumière d'une manière qui est absolument extraordinaire. L'invitation nous est donnée aujourd'hui à vous et à moi pour que nous réalisions une chose, c'est que sans Christ, on ne peut rien faire. Et c'est une réalité dans notre vie, dans votre vie, dans ma vie, que sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne suis rien. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à venir à lui. Amen. Ses bras sont ouverts, il n'y a pas de raison pour laquelle aucun d'entre nous soit refusé à venir à Christ. Ce que nous devons faire, c'est un petit peu ce que les enfants nous ont chanté tout à l'heure, c'est lui obéir. Devenir des enfants qui sont obéissants. Écouter notre Père Céleste, lui obéir, c'est quelque chose qui est à faire. Et de la part, vous et moi, on est encouragés de la part de ceux à qui on a témoigné à marcher dans la lumière. Vous ne pensez pas que tout ce que Christiane a dit tout à l'heure n'a pas été de la part d'une nouvelle personne dans la foi, quoique connaissant le Seigneur depuis longtemps, cherchant plus de Jésus-Christ, mais vous ne pensez pas que ces quelques mots d'une nouvelle personne en Christ n'a pas été un encouragement pour vous qui marchez avec le Seigneur depuis plus longtemps à garder et rester et continuer de marcher dans la lumière? Elle a mis 10 ans pour trouver ce qu'elle a trouvé. Alors on regarde 10 ans, ça fait quand même presque 4000 jours quand même. Ça fait quand même du monde hein, quand on regarde les journées. Ça fait quand même pas mal de minutes, pas mal de choses, ça se passe en 10 années. Mais Dieu a été fidèle, il a entendu son cri. Et il a fallu 10 ans pour qu'elle... Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas lui montrer la porte tout de suite. Mais c'est que quelque part peut-être, elle avait du mal à trouver cette porte. Et il a fallu 10 années pour préparer son cœur. Mais quand on entend ce témoignage, quand on entend cet encouragement, nous recevons maintenant le témoignage de quelqu'un à qui l'on a témoigné. Nous recevons l'encouragement de quelqu'un à qui l'on a, que là on a encouragé. Et c'est ce quelqu'un qui nous dit, par son témoignage, marchez dans la lumière. Vous continuez à marcher dans la lumière. C'est un petit peu cette histoire que l'on a dans Ézéchiel chapitre 37. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous notez Ézéchiel 37, 5, 14. C'est l'histoire de tous ces ossements qu'il y a dans cette vallée et qui sont desséchés. Mais à la parole prophétique qui a été donnée, ces ossements ont repris du cartilage, ont repris vie. Les esprits sont revenus dans ces ossements et des gens sont venus. Vous savez, quelquefois, on passe par des moments difficiles dans la vie où est-ce qu'il n'y a rien qu'un tas d'ossements dans notre vie. Et nous avons besoin de recevoir le souffle du Saint-Esprit en nous. Comment est-ce qu'il nous vient souvent? Par le témoignage de quelqu'un à qui l'on a témoigné. Par le témoignage des nouveaux convertis. Vous avez remarqué le zèle qu'il y a dans les nouveaux convertis? Ils sont brûlants. Ils sont remplis de zèle, ils sont remplis de foi, ils sont prêts à prier 24 heures sur 24. Ils sont prêts à aller à l'église tous les jours du matin au soir. Ils sont prêts à évangéliser dans la rue. Et il y a les anciens chrétiens qui sont là, enfin les anciens, pas les anciens, des plus anciens, des plus vieux chrétiens qui sont là. Ils disent, oh, mais moi je peux pas, oh, c'est à toi de le faire, non, non. Oh, tu es zélé, c'est bien, mais moi je peux plus. Vous savez quoi? Les nouveaux chrétiens encouragent les anciens chrétiens à être zélés pour Dieu. À garder la lumière, parce que c'est quand on est plus habitué à la présence de Dieu que tout doucement, on s'habitue à tourner son dos à la lumière. Et merci Seigneur pour tous les nouveaux chrétiens. Merci Seigneur pour le zèle de tous ceux qui viennent être remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur, vous savez quoi, hier je suis passé à sur Novaki Park dans le nord de la France, je suis venu ici, il y avait une trentaine de jeunes qui étaient là, avec le frère Thomas et d'autres frères et sœurs qui étaient là, prêts à partir évangéliser dans Melun. Vous savez quoi, c'est un encouragement de voir cela. Amen, amen. Il y a de l'espoir pour Melun, il y a de l'espoir pour la Seine-et-Marne. Pourquoi? Parce qu'il y a une église vibrante qui regarde vers la lumière. Amen, qui prie et qui veut voir un réveil, fais-le Seigneur. Amen, et alors que ces nouveaux chrétiens viennent et nous titille un petit peu les anciens qui ne sont pas aussi actifs qu'ils devraient l'être. Vous savez quoi? C'est une douce et gentille réprimande qui nous vient d'eux. Regardez vers la lumière. Amen. Vous m'avez parlé de la lumière. Maintenant, regardez, continuez avec moi dans la lumière. Vous savez quoi? On doit s'encourager l'un l'autre à marcher dans cette lumière. Cette invitation nous vient de la part des chrétiens qui s'édifient mutuellement. Moi, je me souviens quand j'étais petit, les frères dans le nord de la France passaient pas mal de temps à discuter la parole de Dieu. Ils aimaient bien se retrouver ensemble et ils disaient, tu sais quoi, cette semaine j'ai lu ça et ça et ça, qu'est-ce que tu crois de cela? Qu'est-ce que tu penses de cela? Et un autre répond, tu sais quoi, moi j'ai lu ça, et puis ils se retrouvaient, trois, quatre frères, après avoir travaillé à la mine, le jour où il pleuvait, ils n'avaient pas les champs dans lesquels ils devaient travailler, parce qu'ils travaillaient à la mine, ils prenaient soin de leurs champs pour avoir des pommes de terre, des betteraves, etc. Ils étaient toujours en train de travailler, donc quand il pleuvait, ils se réunissaient pour parler de la parole de Dieu. Ils aimaient parler de la parole de Dieu. Dites-moi un petit peu, quand est-ce que c'était la dernière fois que chez vous, dans votre maison, vous avez parlé de la parole de Dieu avec un frère ou une sœur? On est trop occupé à Facebook. On veut savoir ce qui se passe là-bas. On veut lire qu'est-ce qui est écrit sur le mur de quelqu'un d'autre là-bas. Et on parle très peu de la parole de Dieu. Alors ma mère, elle est un petit peu de cette ancienne... Pardon? Génération? Oui, c'est pas exactement le mot que je cherchais, mais ok, c'est bon. Elle est un petit peu, j'allais dire ancienne culture, mais c'est pas une culture. Ancienne école, sans Novaki, merci. Elle est un petit peu de cette ancienne école, où est-ce que souvent, elle va me dire, tu sais quoi, j'ai lu ça dans la vie, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle est tout le temps en train de chercher quelque chose dans la Bible, et comme elle fait pas mal de corrections de livres, elle lit ici et là, elle aime bien lire, elle a toujours quelque chose à me raconter quand je viens de dire, moi je bois le café, elle parle. Elle me parle, elle a toujours quelque chose à me raconter, quelque chose de la parole de Dieu. Vous savez quoi? C'est très très important que nous ayons à parler de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'encourage l'un l'autre. Amen. Maintenant, nous, on a tendance à se retrouver ensemble pour parler sur quelqu'un. Tu sais quoi, j'ai quelque chose, est-ce qu'on peut se voir, j'ai quelque chose à te dire. On lui dit pas, qu'est-ce que tu as lu dans la parole de Dieu? Mais on dit, tu es entendu au sujet d'elle ou au sujet de lui? Vous savez quoi? Tout doucement, on ferme la porte de la lumière et on ramène les ténèbres. Et on se pose la question, mais comment ça se fait qu'il y a des ténèbres dans ma maison? Vous savez quoi? Parce que vous avez pris du temps pour parler de ce qu'il ne fallait pas parler. Amen. Vous avez invité les ténèbres. Vous avez invité le doute. Et il est sain et bon pour les chrétiens de s'édifier les uns les autres. Ésaïe 2,5, « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Voici, il est nécessaire que nous, frères et sœurs, nous soyons désireux à nous appeler les uns les autres, en parlant les uns avec les autres, de marcher ensemble, de parler des mêmes choses, des choses de Dieu. Parce qu'elles nous encouragent, celles-ci. Vous savez quoi, quand quelqu'un vient me dire une mauvaise nouvelle vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je ne suis pas encouragé. Ah, mais j'ai mal au cœur pour celui qui ne fait pas bien ou celle qui ne fait pas bien. Mon esprit est travaillé par cela. Pourquoi est-ce qu'une telle personne est en train de dérailler? Pourquoi est-ce que... Alors, l'une des choses, c'est qu'on vient me dire quelque chose. Mais après, je me dis, qu'est-ce qui se passe quand les chrétiens se parlent les uns aux autres? C'est tout ce qui se passe dans notre tête. Et on est cette femme qui revient à la maison. Et on se dit, oh, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marchait. Oh, qu'est-ce que c'est difficile. Tout est noir autour de moi. Tout est ténèbres autour de moi. Et on s'affale sur sa chaise et on se demande, mais où est-ce qu'on est? Est-ce que vous avez une petite nièce dans le coin de la maison qui vous dit, Tati, regarde vers la lumière. Mon frère, ma sœur, si vous avez des soucis, regardez vers la lumière. Parce que les soucis que vous avez viennent de quelqu'un qui a tourné son dos à la lumière. Les soucis viennent toujours à cause de celui ou celle qui a tourné son dos à la lumière. Et vous, qui êtes un petit peu plus fort, regardez vers la lumière pour pouvoir sortir ce frère ou cette sœur, ce bien-aimé qui est là, le sortir de là, plutôt que de parler sur lui, le sortir de là. Et dire, viens avec moi, on va marcher ensemble dans la lumière. On va marcher ensemble dans la lumière. Vous savez, c'est fort important. L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains chapitre 1, verset 11, dit ceci, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble. » Vous voyez, il dit, « Je viens pour vous donner des dons, afin que vous soyez affermis. » Après, il dit, « Non, pour qu'on soit encouragés ensemble. » C'est-à-dire que le fait que lui voulait partager avec eux, eux partageraient avec lui, et ensemble, ils seraient encouragés. Donc, ensemble, Église, on doit marcher vers la lumière. Que nous soyons encouragés ensemble au milieu de ce monde dans lequel nous vivons. Ce genre d'invitation est un signe pour vous et moi d'une bonne santé spirituelle. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a certainement des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je lis, que je me dis, mais ça veut dire quoi? Ils sortent ici un nom, ils sortent... Ça veut dire quoi? Donc, on est obligé de faire des recherches pour trouver. Aujourd'hui, on est très, très aidé avec les aides bibliques que l'on a pour trouver la plupart des réponses des choses que l'on recherche. Et la raison que les frères se réunissaient avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de trouver rapidement des concordances. La plupart des frères desquels moi je parle, c'était des Polonais qui sont arrivés de Pologne. Ils parlaient, ils n'avaient pas, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient pas accès à des concordances, à des livres qui étaient là. Je ne sais pas si, certainement que maintenant ils sont un petit peu plus riches dans ces pays-là, au niveau de littérature biblique. Mais vous savez quoi, en France, aujourd'hui, on a de plus en plus de littérature et on a un comptoir biblique ici que l'on vous invite de visiter régulièrement. Mais vous savez quoi, on n'a pas une multiplicité de choses auxquelles ils n'avaient pas, eux, plutôt une multiplicité de choses auxquelles nous, aujourd'hui, on a accès. Et si on ne peut pas les avoir accès sur des livres, on peut accéder à pas mal d'informations sur Internet. On peut rechercher dans des livres qui n'existent plus physiquement parlant, mais qui sont dans des bibliothèques que l'on peut consulter. Il y a pas mal de choses qu'on peut, quand on a une question, on peut faire des recherches. Mais eux n'avaient pas cela. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient entre eux et ils parlaient. Alors est-ce que ça veut dire par là que Internet doit nous suffire, on n'a pas besoin de se réunir? Je ne pense pas. Si vous découvrez quelque chose qui est intéressant, au lieu de parler du football et de parler de tous ceux qui perdent, parlez de celui qui gagne. Réunissez-vous pour parler de celui qui gagne, du Seigneur Jésus, que ce que vous avez découvert. Vous allez remarquer qu'il a marqué encore un but. Il a gagné encore un match. Alors ce matin, je me suis levé, je sais qu'il y avait un match de boxe qui était en cours là, et ils n'ont pas dit un mot de la boxe. Alors je me suis posé, est-ce qu'il a gagné finalement ou pas? Mais finalement, ils n'en ont pas parlé, c'est qu'il a perdu. Il a perdu? Il a perdu, vous voyez. Donc je ne l'ai même pas entendu, mais il a perdu. Ah, je regrette. Je pensais qu'il était courageux contre ce grand géant-là. Donc il a perdu, mais vous avez vu, dans les nouvelles, c'est comme ça. Si vous perdez, on ne parle pas de vous. Ah, je voulais l'entendre, je me disais, est-ce qu'il a gagné, le petit gars, là? Pas grave, il a perdu, voilà. On ne parle pas de lui. Vous savez quoi? On va se réunir pour parler de celui qui gagne. Amen. Son nom, c'est Jésus. On va parler de lui. Amen. C'est lui qui va nous encourager. C'est lui qui va nous conduire. Aide-nous aujourd'hui. Il est nécessaire, frères et sœurs, que l'on accepte cette invitation. Aucune lumière n'est comparable à celle du Seigneur. C'est une lumière qui subsiste par elle-même. Elle n'est pas créée par des objets ou des matériaux qui sont physiques, chimiques ou quelque chose qui est sur la terre. Dieu est lumière. Amen. Tout à l'heure, je vous ai parlé du soleil, mais le soleil est une création. Un jour, dans des millions d'années, le soleil s'éteindra. Il n'y en aura plus de carburant là-bas. Ça s'éteindra. Le soleil passera. La lune passera. Les étoiles passeront. Mais cette lumière du Seigneur ne passera jamais. Elle est éternelle. C'est ce qu'il est. Il est lumière. Et il n'est pas en combustion. Est-ce qu'un jour il brûlera? Il n'y aura plus rien. Il était avant toute chose. Il n'a ni commencement ni fin, celui duquel je vous parle. C'est le Seigneur. Donc, nous devons remarquer qu'il n'y a rien de comparable à celui-ci. Et en particulier pour les personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. On doit réaliser une chose, c'est que le Seigneur Jésus est la lumière de Jacob. C'est lui notre lumière. C'est lui qui nous a éclairés. Jésus nous dit dans Jean 9, 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Aucune autre marche n'est plus sûre que la marche avec Christ. Aucune autre joie n'est plus sincère et sérieuse et qui nous assouvit comme la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est certaine. La joie du Seigneur est quelque chose que l'on ne regrette pas. C'est pas un petit moment de joie que l'on a pour quelques minutes et puis finalement on dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. C'est pas ça que j'aurais dû faire. J'étais content, mais maintenant j'ai un problème. » Celui qui goûte au Seigneur goûtera que le Seigneur est bon maintenant et pour toujours. Sa lumière est bonne. Amen. Il nous donne la vraie joie. Aucun peuple n'est en mesure de marcher dans la lumière de Dieu sans venir vers lui selon ses règles et selon son commandement. Et ces règles sont très simples, vous savez. Si vous êtes un ami visiteur aujourd'hui pour marcher avec Jésus-Christ, s'il vous a touché votre cœur et s'il vous a ramené jusqu'ici, la première chose qu'il faut faire, c'est vous repentir de vos péchés. Réalisez que vous êtes pécheur et qu'il a payé pour vous. Amen. Nous sommes pécheurs, il a payé pour nous. On n'était même pas là pour lui dire « fais-le ou fais-le pas », mais notre condition pécheresse l'a amené à payer un prix pour nous. Le prix, c'est que Dieu s'est fait chair. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà l'amour de Dieu. Voilà la lumière du Seigneur aujourd'hui pour chacun d'entre nous. C'est se repentir de ses péchés, être baptisé au nom du Seigneur, comme l'a été tout à l'heure notre sœur Christiane, être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, comme au jour de la Pentecôte. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie, parce que ça, c'est la réelle lumière que Dieu veut nous donner pour que nous marchions avec lui. Et Jésus nous avertit ici. Il nous avertit que cette lumière est là pour encore un peu de temps. Vous savez quoi? Quand le Seigneur reviendra, quand la trompette va sonner, ce sera fini. Quand le Seigneur reviendra, il ne revient plus pour naître dans une crèche cette fois-ci. Il ne vient pas comme un faible enfant qu'il va falloir extirper depuis la Palestine et l'emmener en Égypte parce qu'il y a un roi qui est fâché à pas possible et qui tue tout le monde. Non, non. Cette fois-ci, quand il revient sur un cheval blanc. C'est lui, l'Éternel, qui revient. Il revient avec des myriades, il vient avec son peuple. Vous savez, ce que moi je crois, c'est que quand la trompette va sonner, voilà ce que moi je pense. Quand la trompette va sonner, la Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Mais la première chose qui va se passer, c'est la résurrection des morts. En Christ, ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter. Et nous les vivants, nous dit l'apôtre Paul, qui sommes nous serons transformés en un clin d'œil. C'est-à-dire que quand la trompette va sonner, tous les sépulcres qui contiennent un chrétien baptisé au nom du Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui porte son nom, parce que vous savez quoi, le Seigneur attire ce qui est sien, et n'attire pas ce qui n'est pas sien. Donc, le baptême au nom du Seigneur Jésus est vital, le baptême de l'Esprit est vital, il vient attirer ce qui est sien. On le rencontre dans les airs, la Bible nous dit. Et c'est avec lui qu'on vient. Amen. Moi, je crois que l'Église revient pour régner avec lui, pour combattre avec lui. L'antichrist qui sera sur la terre, qui se prépare ici, le faux prophète que vous voyez un petit peu partout, plus que jamais, le faux prophète viendra combattre Christ, mais il ne pourra pas combattre Jésus. La Bible nous dit qu'avec ses yeux simplement, il détruira toute chose. Pourquoi ? Parce qu'il est glorieux et merveilleux. Il est la pure lumière, la lumière de sa gloire. La lumière de sa gloire détruira l'impie, la Bible nous dit. Vous ne pensez pas que l'on doit s'accrocher à cette lumière ? Vous ne pensez pas que l'on doit être là ? Jésus nous dit donc la lumière est encore ici pendant un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres, dans Jean 12, 35, avant que les ténèbres ne vous surprennent point, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Seigneur, je ne veux pas être dans les ténèbres. Seigneur, je veux savoir où je vais. Je veux voir, Seigneur, je veux voir. 2 Samuel 22, 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Amen. Est-ce qu'il y a des endroits ténébreux dans votre vie ? Priez qu'il éclaire ces endroits-là. Amen. En général, les endroits ténébreux sont des péchés mignons que l'on veut garder. On dit, ah, ça, c'est pas trop grave. Ça, le Seigneur, il comprendra. Ça, je lui expliquerai quand je le verrai. Vous savez quoi ? Vous n'êtes pas assez bon marchand pour marchander avec Dieu. Il haït le péché. Donc c'est simple, tout ce qui est péché est condamné devant lui. Donc comment est-ce que vous allez marchander avec lui ? C'est impossible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous abandonner au Seigneur. Dire, Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai caché ici, mais alors que je prends le projecteur de ta lumière, Seigneur, j'expose encore une faiblesse dans ma vie. Guéris-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de cette faiblesse. Seigneur, je ne veux pas être lié par quoi que ce soit, ni qui que ce soit, Seigneur. Tu es ma lumière, 2 Samuel 22, 29, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Le psaume 18, 28 nous dit, oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Le psalmiste le psalmiste reprend ce que Samuel disait parce que c'était David qui exprimait ça. Il ne voulait pas qu'il y ait quelque chose de ténébreux dans sa vie. Dans cette lumière, nous trouvons la direction pour le jugement. Vous savez quoi, chacun d'entre nous, on doit se juger. On doit se juger à la lumière de la parole de Dieu. Et le psalmiste écrit encore ceci dans le psaume 119, 105. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Comment est-ce que l'on va être dans la lumière quand sa parole sera dans notre cœur ? C'est quelquefois, on ne veut pas la parole de Dieu. On vient à l'église, mais on dit, ah, le pasteur, il en a après moi. Vous savez quoi ? J'en ai après personne. J'en ai après moi-même. Quand je prêche d'abord à moi et ensuite à vous. Parce que moi, j'ai travaillé sur le message avant que vous l'entendiez. Donc, ce message m'a déjà bien parlé. Amen. Vous réalisez ça ? Amen. Je me lève le matin, je me couche le soir, je pense à ça. Seigneur Jésus, garde-moi dans ta lumière. Donne-moi de voir, Seigneur. Seigneur, je veux voir. Voilà pourquoi je dis à l'Église aujourd'hui, Église, il faut que chacun d'entre vous vous disiez, Seigneur, je veux voir, Seigneur. Je veux rester dans la lumière. Seigneur, je veux marcher dans ta lumière. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Ta parole. Amen. Pas un prophète quelque part là-bas, quelque part. Je ne sais pas dans quelle église. Ta parole. Maintenant, si le prophète parle de la parole de Dieu et que ça concourt, c'est bien. Mais s'il raconte des sornettes, c'est faux. C'est un faux prophète. C'est aussi simple que ça. Amen. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui dans le pays. Beaucoup de gens qui se donnent plein de titres. Prophète ici, apôtre là-bas, et ceci et cela. Oh là là. Oh là là. Vous savez quoi ? Nous, on doit être des serviteurs simplement. Amen. Celui qui aime bien se présenter avec des titres, des cartes de visite comme ça, il faut savoir déjà une chose, est-ce qu'ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils croient en un Dieu ou en trois ou quatre dieux? Qui sait? Il y a un des grands évangélistes américains qui raconte n'importe quoi, mais franchement n'importe quoi. Celui qui veut l'écouter, il lui raconte n'importe quoi. Certains d'entre eux se sont permis de vivre des vies horribles, dans le péché le plus sombre. Des milliers de gens suivent ces gens-là. C'est à quoi il faut faire attention. Ta parole est une lampe à mes pieds. 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 Éclaire-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous. Alors moi, je ne vous dis pas ça sur les autres, vous disant que moi, je suis meilleur. C'est quoi? L'une des choses qu'on doit savoir, c'est qu'on peut toujours être déçu par les hommes. Vous et moi. Amen. Parce qu'on est des hommes. Nous, on doit regarder vers le Seigneur. On doit regarder vers le Seigneur. Je me souviens, j'ai un oncle à moi qui avait une grande, grande foi dans son pasteur. Et c'était bien. C'était bien. Mais quelque part, son pasteur avait gravement failli. C'était grave ce qu'il avait fait. Vous savez quoi? Mon oncle a presque perdu la foi. Ne sachant pas qu'un homme peut faillir, peu importe qui il est. Vous devez veiller, moi je dois veiller. Vous pouvez pécher, moi aussi. C'est pareil. C'est quoi? On est assis à la même table dans le monde. C'est la responsabilité qui est différente. Mais chacun d'entre nous doit veiller où on marche. Moi, je dois veiller pareil. Vous ne pouvez pas penser que moi, je marche sur un nuage quelque part où est-ce que personne ne peut m'atteindre et que le péché ne peut pas me toucher. Vous savez, si c'est ça l'image que vous faites de votre pasteur, ça ne va pas. Moi, je remercie le Seigneur que vous priez pour moi. Parce que j'ai des besoins et en tant que pasteur, je vous remercie pour vos prières. Je vous ai déjà dit souvent, je ne prends rien comme un fait accompli. Je dis, Seigneur, aide-moi encore. Aide-moi encore. Seigneur, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas m'égarer. Je ne veux pas faire quelque chose qui ne va pas. Mais donc, quand je pense à mon oncle, donc, je dis, il a presque perdu la foi parce qu'il a oublié une chose, c'est que cet homme qui était un homme qui était bon, qui avait un ministère extraordinaire, quelque part, il s'était détourné de la lumière et il ne marchait pas comme il le fallait dans la lumière. Et nous, en tant que chrétiens, on doit écouter ceux qui nous conduisent, on doit être sous la tutelle de nos dirigeants, de nos pasteurs, etc. Mais on doit savoir ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi on a des études bibliques. Voilà pourquoi ce matin je vous prêche. Voilà pourquoi je vous dis ça. Il faut que l'on soit dans la lumière. Il faut que l'on voit. Amen. Israël avait des responsables extraordinaires et ils n'ont pas écouté ces responsables. Ils se sont égarés. Ils n'ont pas écouté Moïse. Ils se sont égarés. Ils ont du mal à suivre Josué. Ils se sont égarés. Regardez l'histoire des juges. Regardez un petit peu ce que Dieu a dû faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, vous êtes un peuple au cou raide. Après tout ce qu'ils ont vu, et sachant une chose, c'est qu'il y a ces gènes en nous aussi. On est un peuple et on peut avoir un cou qui est raide. On entend l'enseignement, on entend la parole de Dieu, on nous dit ce que l'on doit faire. Puis quelquefois on dit, non, moi, pour moi c'est ok, je fais comme je veux. Continue, très bien. Voilà ce que la parole de Dieu vit. La parole de Dieu nous dit ces choses-là, on doit les faire. Oui Seigneur, fais briller ta lumière sur moi. Amen. Amen. Dans cette lumière, nous trouvons les délices de notre âme, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, c'est en elle que nous trouvons une nourriture pour notre âme. C'est là que notre âme est abreuvée, nourrie, remplie de foi. Quelqu'un dit, je n'ai pas de foi, je n'ai plus la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne lit plus la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est qu'il ne la lit pas. Quelqu'un qui ne l'a plus, c'est qu'il ne la lit plus. Amen. C'est quelqu'un s'est éloigné de la lumière. Plus on est dans la parole, plus on a la foi. Amen. On ne doute pas le Seigneur. Peu importe ce qu'on voit. Peu importe ce que vous voyez. Il est capable de changer ce que vous voyez pour que sa volonté se fasse. Parce qu'il est Dieu. Nous raisonnons souvent comme des hommes. On dit, oh, mais ça ne se passera jamais. Mais il est Dieu. Il peut faire ce que vous ne saurez jamais faire. Et il a fait des choses que les gens étaient incapables de faire. Vous rendez-vous compte qu'ils ont traversé la mer à pied sec? Il a ouvert, mais pas une fois seulement, il l'a fait plusieurs fois. C'est pas une fois que Dieu a fait quelque chose. Il a arrêté le soleil pendant un combat. Maintenant, les scientifiques peuvent vous dire qu'on a un problème de calendrier. On s'aperçoit que quelque part, le soleil s'est arrêté. Quelque part, dans les calculs, on sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a arrêté le soleil parce que Josué dit, soleil, arrête-toi. On n'a pas fini le travail. Vous savez quoi? Il n'a pas réalisé ce qu'il disait. Il était rempli du Saint-Esprit ce jour-là. Amen. Et Dieu voulait donner la bataille et la victoire à Israël. Le Seigneur, vous pensez qu'il n'est pas capable d'arrêter le soleil? Il l'a fait une fois, il peut le faire encore une fois. Amen. Ce sera pour la gloire de son nom à chaque fois. Donc nous servons ce genre de Seigneur-là. Ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, elle me donne de la joie dans mon âme. Seigneur, ta parole me donne la communion avec toi. 2 Timothée 1:12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance. Amen. Qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Est-ce que vous savez, mes chers bien-aimés, en qui vous avez cru? En vous levant ce soir, ce matin. Amen. Laissez-moi conclure avec ceci. Mon souhait, ma prière, c'est que chacun d'entre nous dans l'Église, nous marchions dans la lumière. Il n'y a pas un chrétien qui vient au centre évangélique et quand il sait ce que Dieu lui a révélé et qu'il se trouve dans une situation où est-ce que ça devient ténébreux, il n'y a pas un chrétien ou une chrétienne qui ne le sait pas dans son cœur. Amen. Le Saint-Esprit vous le dira chaque fois. Le Saint-Esprit vous rappellera chaque fois les paroles que vous avez entendues. Dès que vous essayez de vous éloigner de la lumière du Seigneur, il y a quelque chose qui vous parlera, qui vous dira, hey, t'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses? Le Seigneur va vous parler. C'est sûr. Je suis convaincu. Je suis certain que le Seigneur parle à votre cœur. Amen. Je suis sûr. Il parle à chacun de nos cœurs. Donc mon désir aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, ce matin, nous disions plus que jamais, Seigneur, je suis une personne, je suis un homme, je suis une femme, je veux marcher dans la lumière de Dieu. Seigneur, je veux marcher dans l'Église. Seigneur, je veux marcher ensemble. Seigneur, je veux la paix, je veux la joie dans mon cœur, Seigneur. Je recherche, Seigneur, la communion fraternelle. Je veux marcher avec toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. La vie ici-bas, vous savez qu'est-ce que c'est la vie ici-bas? Elle vous prépare, vous et moi. Écoutez-moi bien. La vie ici-bas, en regardant la lumière, elle nous prépare ici-bas à ce que nous allons voir quand nous allons dans l'éternité. Est-ce que dans l'éternité, vous recherchez la pénombre? Est-ce que vous cherchez dans l'éternité ce qui est caché, ce qui est douteux? Ce qui est pas bien, il y a un tel endroit pour ça. Mais ceux qui se préparent à la lumière vont se retrouver en face de la lumière. Son nom, c'est Jésus. Vous, au contraire, nous dit l'apôtre Pierre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous, ici sur la terre, dans l'Église, on se prépare à pénétrer ce royaume de lumière. Il nous l'a donné déjà en partie. Il nous l'a révélé en partie. Mais il nous le donnera complètement quand il viendra. On sera tout en lui et pour toujours. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, fais attention à ton œil. Alors bien sûr, le Seigneur utilise ici une hyperbole dans ce qu'il dit. Il dit « arrache-le pour pas que ton œil soit une occasion de chute ». C'est une façon de parler. Il ne veut pas que les gens marchent, qu'ils soient borgnes, le Seigneur. Mais il est en train de dire que si vraiment c'est ça qui va t'occasionner une chute, Seigneur, il vaudrait mieux que tu n'aies pas d'œil et que tu sois sauvé. Il vaudrait mieux que tu perdes une main, mais que tu restes sauvé. Donc pour nous, aujourd'hui, il faut réaliser une chose, c'est que nous voulons prendre garde, que la lumière qui est en nous ne se tourne pas en ténèbres. Église, c'est le Seigneur qui dit ça dans Luc 11, 35. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Et sache une chose, au verset 36, il dit si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Seigneur, éclaire-nous aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est avec vous, frères et sœurs, mais moi je veux marcher dans la lumière. Moi, je veux voir Jésus. Amen. Vous savez quoi? Ça fait trop longtemps que je suis avec lui pour rater quelque chose. Le péché, bien sûr, je dois faire attention au péché, mais sachez une chose, je ne suis pas attiré par le péché. Je n'ai pas envie de pécher. Je ne veux pas pécher. Je sais qu'il est là et que je peux pécher. Parce que je suis un homme, mais je ne suis pas attiré par lui. Je veux la vie éternelle. Je veux voir Jésus. Ce que j'ai de l'autre côté, mais plus important que ce qui est ici, qui est temporaire, qui pourra me faire simplement avoir une vie ruinée. Seigneur, je veux toi, Seigneur. Seigneur, ça fait trop longtemps que je marche avec toi pour rater tout ça. Seigneur, je ne veux pas pécher. C'est pour ça qu'on chante. Les désirs du monde ne m'attirent plus. Il y a simplement une chose qui m'inonde, c'est ta présence, Jésus. C'est quoi? Ça doit faire partie de nos désirs. Seigneur, que les désirs du monde ne soient pas là en nous. Seigneur, je ne veux rien du monde. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je vis ici, je suis au courant de certaines choses, mais Seigneur, je ne veux pas de ça, Seigneur. Je veux ta lumière. Je veux ta pureté parce que c'est là que je suis heureux. C'est là que j'ai la santé. C'est là que j'ai la force. C'est là que j'ai la joie. C'est là que j'ai la puissance avec Dieu. Ô Seigneur Jésus, alors que nous nous courbons devant toi ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes ton peuple aujourd'hui. Seigneur, conduis-nous dans ta lumière. Conduis-nous, Seigneur Jésus, et éloigne-nous des ténèbres. Seigneur Jésus, je te prie. Seigneur, tu sais qu'il y a des bien-aimés, des jeunes et des moins jeunes, Seigneur, qui quelquefois sont attirés ici, à droite et à gauche. Seigneur Jésus, donne-nous de regarder, de contempler ta face. Seigneur, toi qui nous as tout révélé, toi qui nous as tout donné. Seigneur, tu nous as tout révélé quant au salut. Seigneur, tu nous as tout révélé, Seigneur, quant au jugement. Tu nous as tout révélé, Seigneur Jésus, comment nous préparer pour te rencontrer. Seigneur, tu nous as tout dit, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir été si clair avec nous. Seigneur, merci pour ta lumière qui a brillé dans nos cœurs et dans nos vies. Mais Seigneur, ce matin, je veux te prier s'il y a un frère, une sœur, Seigneur, qui se trouve dans les ténèbres du doute. Seigneur Jésus, dans les ténèbres du péché. Seigneur, dans les ténèbres de la rébellion, peut-être. Seigneur Jésus, étends ta main vers eux, éclaire leur cœur, éclaire leurs yeux, éclaire leur âme et sauve-les, Seigneur. Alors que je suis en train de prier, s'il y a quelqu'un qui a besoin de s'approcher de l'autel en disant, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, l'autel est ouvert. Et dites, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, Seigneur. Je veux voir Jésus. Hallelujah, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ce qui brûle dans ma vie, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je ne veux pas être attiré par les plaisirs du monde. Seigneur Jésus, je ne veux pas être séduit, Seigneur, par quelque chose qui est faux. Seigneur, je veux être attiré vers toi. Seigneur, je veux tourner mon dos aux ténèbres. Et Seigneur, je veux m'approcher de ta lumière. Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller, Seigneur. Fais-la briller, Seigneur Jésus, plus que jamais. Seigneur Jésus, tu vois, Sauveur adorable, les bien-aimés, Seigneur, à droite et à gauche qui s'approchent. Tu connais chacune des vies, Seigneur. Seigneur, tu es si bon pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, il n'y a pas une personne ici, Seigneur, qui n'est pas précieuse. Il n'y a pas un seul homme, une seule femme, un seul jeune, Seigneur, qui n'a aucune valeur. Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, tu as mis de la valeur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Pose ta main, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'avoir des yeux qui voient. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre entendement. Bénis-nous, Seigneur, garde-nous, protège-nous.